Bonjour, vous êtes bien sûr
Radio Vassivière.
À l'écoute de
Élève-toi
avec les enfants.
Une émission pour les parents et les professionnels de l'enfance et de l'éducation, tous ceux qui ont envie de s'élever auprès des enfants, afin de les accompagner avec justesse et leur permettre de donner tout leur potentiel dans ce monde. Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission d'Élève-toi avec les enfants, la numéro 37. Je n'étais pas venue enregistrer depuis le mois de mai au studio et ça tournait en boucle le samedi après-midi, les rediffusions, ça y est. J'ai trouvé l'espace, le temps pour venir jusque-là et pour m'exprimer à nouveau sur les ondes de cette chaire.
Radio Vassivière.
Voilà, alors des fois, je crois que j'avais besoin d'un temps de silence aussi pour, j'espère, mieux parler après avoir moins parlé, voire plus du tout parlé. Entre-temps, j'ai repris ma carrière d'enseignante et mes enfants se retournaient à l'école. Et là, aujourd'hui, en revenant, j'ai envie de m'adresser plus particulièrement aux instits et à tous les parents qui choisissent l'école à la maison. J'ai envie de vous parler de l'orthographe. Alors, en sortant de l'IUFM, j'ai eu ma première classe, que j'étais instite, je n'étais pas une spécialiste du français, non, je sortais de licence de sciences physiques. J'avais fait plein de maths, de physique et de chimie. Et non, le français, ce n'était pas du tout ma spécialité. Par contre, quelques années auparavant, j'étais une élève, et ça a duré longtemps, avec plein d'heures de français. Et j'avais retenu quand même quelques enseignements. Je n'avais pas du tout envie que mes élèves mangent des bleds. Vous savez, cet affreux livre où les exercices s'enchaînent, ça n'a ni queue ni tête, ça ne parle de rien qui nous intéresse, et il faut remplir les trous, mais pire que ça, il faut réécrire toutes les phrases en entier. Non, je ne voulais pas qu'ils vivent ça. Et j'avais envie qu'ils sachent écrire correctement parce que quand même moi j'aime pas recevoir des mots avec des erreurs d'orthographe et j'avais envie qu'ils comprennent et qu'ils y prennent goût. Je n'avais pas du tout envie d'utiliser des manuels de français. Navré pour ceux qui les réalisent, mais non, je n'y trouve pas du tout d'intérêt. Alors j'ai dû tout construire. Et aujourd'hui j'ai envie de vous partager justement ces petits trucs et astuces, ces petites choses faciles à mettre en œuvre pour aider les enfants à progresser en orthographe. J'étais, je le précise, en CE2, CM1, CM2 à l'époque. Et après, j'ai enseigné l'orthographe à la maison à mon fils jusqu'à l'âge de 8 ans et demi. Voilà. Alors, une chose intéressante que j'avais apprise à l'IUFM, c'est un système, je crois que c'est Nina Kata, j'espère que je ne dis pas de bêtises, que j'avais repris à mon compte, c'est pour classifier les erreurs. Voilà, quand on fait un texte, qu'on écrit, on peut repérer différents types d'erreurs. Et moi, j'avais pris un petit mot facile pour me rappeler de ça, c'était clash, C-L-A-S-H. Chaque lettre correspond à une sorte d'erreur. Le C, c'est pour les erreurs de conjugaison. Par exemple, j'ai écrit « je peux » P-E-U-T. Mais non, P-E-U-X, bien sûr. Le L, c'est pour les erreurs de lettres. Courir un R ou deux R, je ne sais jamais. Il faut deux jambes pour courir, alors t'as qu'à mettre deux R. A. A, c'est pour les erreurs d'accord. Les grands animaux. Et oui, j'ai bien mis un S à grand, ben là je l'entendais. Mais des fois, je n'entends pas du tout. Les petites fourchettes, bah oui, là, il y avait un S à petite aussi, si on ne l'a pas mis, erreur d'accord. Ensuite, un S. Le S, ce sont pour les erreurs de son. Poisson, poison, un S, deux S, ou ça vient changer le son. Et le H, à la fin, pour les homophones. A, avec accent ou A sans accent. Ah, je peux remplacer par AV, donc c'est le verbe avoir, donc il n'y a pas d'accent. Voilà. Donc, les erreurs, c'est conjugaison, L, lettre, A, accord, S, son, H, homophone. Et il y avait aussi le P pour la ponctuation. Mais je n'ai pas réussi à le placer dans le petit mot mnémotechnique. Donc, quand les enfants écrivaient un texte, bah oui, parce que déjà, pour moi, il s'agissait de faire de l'orthographe à partir de leur texte. Donc ça, c'est le dada de la pédagogie freinée. Hein. Donc, ils écrivent un texte et je vais venir souligner et mettre dessous un C, un L, un A, un S ou un H. Comme ça, l'enfant sait s'il s'agit d'une erreur de conjugaison, de lettre d'accord et tout ça. Voilà. Alors là, ce sont avec les grands. Avec les petits, je peux aussi choisir de réécrire directement le mot, en plus de lui mettre la lettre. Bon, ça dépend du niveau de l'enfant, du choix qu'on fait, etc. Et à partir de ça, eh bien, en début d'année, je donnais un porte-vue avec déjà toutes les leçons, enfin les leçons, c'était plutôt des fiches-outils, de l'année qui allaient permettre de corriger. Donc éventuellement, dans la marge, je pouvais aussi lui dire à quelle page du porte-vue il pouvait se reporter pour pouvoir venir corriger par lui-même cette erreur. Et c'était intéressant, alors quand même je sortais de maths, sciences physiques et les tableaux Excel, ça m'allait. Eh bien j'ai voulu prendre note. Voilà, en début d'année, même quand ils arrivaient, parce que je les gardais 2 ans, voire 3 ans pour certains quand j'avais le CE2, eh bien je quantifiais, voilà, sur quel était le pourcentage d'erreurs qui étaient faites en conjugaison, en lettres, en accord, en son et en H homophone, et je me faisais des tableaux pour chaque enfant. Et au fur et à mesure, à chaque fois qu'il y avait voilà, une évaluation comme ça, que je pouvais prendre des notes, et ben voilà, je rentrais et j'avais des tableaux Excel. Et au bout de 3 ans, j'ai quand même eu pas mal de données pour pouvoir faire un bilan. Et j'ai vu que ce que j'avais mis en œuvre avait vraiment fonctionné, notamment au niveau des erreurs de lettres. Alors je vais vous dire ce que je faisais au niveau des erreurs de lettres. Et bien chaque enfant avait un petit carnet avec ses mots à savoir écrire. Et pour chaque lundi, il avait des mots à savoir écrire, mais tout le monde n'avait pas les mêmes. Je sais qu'on peut, pour faire simple, c'est ce que m'avait dit de faire l'inspecteur, on prend les mots les plus courants, hop, les 10 premiers, et on demande à tout le monde d'apprendre ces 10 mots-là. Moi, j'avais choisi que chacun ait des mots en fonction des erreurs qu'il avait faites dans ses textes. Et pas forcément que des mots. Si je reviens à l'erreur « je peux » avec un « t », eh bien, un mot à apprendre pouvait très bien être « je peux », P-E-U-X, bien sûr. Donc, ce n'était pas qu'un mot, ça pouvait être aussi un ensemble de mots qui font sens. Hein. Ça pouvait être les chiens, pour qu'il y ait un S à chien. Et selon le niveau en orthographe de l'enfant, eh bien, j'allais mettre des choses plus ou moins compliquées. Évidemment, tout le monde n'avait pas iconoclaste. Ou voilà, des choses comme ça. Pour dire au hasard un mot hypoténuse, je ne sais pas. Hein. Tout le monde n'avait pas ça. Déjà, si on peut écrire je peux, les chiens correctement, c'est bien. Donc ça permettait d'adapter, tout le monde avait à peu près le même nombre de mots, alors je n'étais pas au mot près. Hein. Et donc dans la marge, je leur mettais mots à savoir écrire, et hop, ils devaient rajouter à leur liste. Une fois qu'ils avaient leur liste, eh bien, pour chaque lundi, ils apprenaient ces mots, et ils se mettaient 2 par 2. Et chacun dictait les mots à l'autre. Si c'était juste, on mettait un petit rond vert à côté du mot, si c'était faux, on mettait une autre couleur, alors je n'aime pas le rouge, on peut mettre du orange. Et puis, quand il y avait eu 3 lundis de suite le rond vert, hop, on le barrait, il ne faisait plus partie des mots à savoir écrire. Et bien ça, j'ai vraiment vu des gros progrès là-dessus. On peut se dire, c'est un travail énorme, ben non, pas tant que ça. Ça demande, voilà, une pédagogie qui s'adapte à chaque enfant, et ils écrivent un texte, et on lui met les mots à savoir écrire dans la marge. Ça demande aussi d'avoir un œil, bien sûr, pour savoir combien il en a. Hein. S'il en avait 30, bien sûr, ça serait trop compliqué. Et puis, après, on fait confiance aux enfants, ils font entre eux. Les parents, ils savent que pour tous les lundis, il y a les mots à savoir écrire. Et puis, vraiment, on progresse avec ça. Premier outil dont j'avais vraiment envie de vous parler. Et ces mots à savoir écrire, ils étaient en fait situés à la fin d'un petit lexique. Alors, c'était sur le site Petit Abécédaire de l'école. Il y a le lexique avec les mots les plus courants qu'on peut imprimer. Après, on fait un petit raccord là avec un... Je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, on le relit. Et puis les enfants avaient ce petit lexique, plus facile qu'un gros dictionnaire. C'est par ordre alphabétique pareil, et puis ils pouvaient chercher les mots dedans. Et voilà, et c'était à la fin de ce petit outil-là qu'était écrit les mots à savoir écrire. Ensuite, j'aimais bien chaque matin, en arrivant, alors pas forcément en arrivant, d'abord je faisais des blagues, on faisait des trucs, des activités sympathiques. Et après, on avait la phrase du jour. Donc, je préparais une phrase en lien avec l'avis du groupe. Un enfant passait à l'intérieur du tableau. C'était pratique. À l'époque, on avait ces super tableaux à créer là qui pouvaient pivoter. On ne le voyait pas. Il écrivait la phrase. Tous les autres écrivaient dans leur cahier du jour. Il se relisait bien. Et à la fin, hop, il montrait à tout le monde ce qu'il avait écrit. Alors, ça demandait... On était dans un climat classe où on avait l'habitude de travailler ensemble et où les enfants avaient l'habitude d'apprendre de leurs erreurs. Il n'y a pas de souci à faire des erreurs. On regardait et les enfants levaient la main en disant « Ah, ici, je dirais qu'il y a une erreur de conjugaison. Moi, j'aurais plutôt mis un T, un S, un D. » Voilà. Et ensemble, on corrigeait la phrase. Elle était réécrite juste. Et on faisait ça tous les jours et ils passaient chacun leur tour au tableau. C'était aussi une pratique très intéressante. Une autre idée de dictée, hein, parce qu'il s'agit de dictée, il y avait aussi la dictée commentée. C'est-à-dire que je pouvais dicter quelques phrases et ils pouvaient lever la main pour poser des questions d'orthographe, de grammaire, de conjugaison, pour savoir comment ils allaient écrire. Hein, il ne s'agissait pas juste de me dire « qu'est-ce qu'on met à la fin de « je peux » hein ?» voilà, ça n'aurait pas pu marcher. Il fallait me poser voilà, des questions sur le sujet. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous partager ? Oui, les listes de mots, voilà. Plutôt, souvent, on fait des règles et puis après, il y a les exercices d'application. Alors nous, ce qu'on faisait plutôt, c'est que si je voyais qu'une erreur était récurrente, eh bien, on allait chercher à faire une liste, voilà. Alors si je prends, je ne sais pas, par exemple, voilà, poisson, on y était tout à l'heure, donc le S qui va faire le son Z, on allait faire une liste avec plein de mots qui avaient le S qui faisait le son Z. Voilà. Ou on allait chercher quand est-ce qu'on met un X en conjugaison. Et là, on allait faire une liste avec plein de verbes conjugués qu'on allait trouver qui avaient un X à la fin. Et on allait voir qu'il n'y avait que le je ou le tu qui pouvait prendre un X. Et ensuite, les enfants avaient un classeur avec toutes ces listes et on pouvait augmenter les listes. Et certaines listes aussi pouvaient être affichées au mur, en fonction voilà, de ce qu'on vivait des besoins. Donc on était vraiment sur plutôt une logique de chercher dans les textes, de faire des listes, d'aller voir les points communs, voilà, que ce soit pour les sons, que ce soit pour la conjugaison, ou toutes ces choses-là, plutôt que faire des leçons et après les exercices d'application. Ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas des exercices, mais c'était vraiment beaucoup à partir de ce qu'ils écrivaient et des recherches de listes qu'on allait faire. Ensuite, pour les erreurs de conjugaison, j'avais remarqué quelque chose de vraiment intéressant, on va dire. Non, j'avais trouvé dans un livre, Orthographe, Grammaire, Conjugaison, Druon, je crois l'auteur, qu'en fait, la manière habituelle d'apprendre la conjugaison était un petit peu compliquée pour pas grand-chose, notamment premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, finalement, ça ne servait pas toujours, et qu'on pouvait venir simplifier. Que la première simplification était de se demander... Avec « je », quelles sont les lettres finales possibles, si on prend que la dernière? Allez, je vous laisse réfléchir. Avec « je », les lettres finales possibles, il y en a quatre. Avec « tu », il y en a deux et une troisième qui est plus rare. Avec la troisième personne du singulier, il y en a quatre et une cinquième plus rare. Allez, je vous l'ai dit, pour « je », il s'agit du « e », du « s », du « i » et du « x ». Pour « tu », il s'agit du « s » ou du « x » et parfois du « e », et oui, à l'impératif des verbes du premier groupe. Et pour la troisième personne du singulier, on peut retenir avec date, D-A-T-E. Et parfois, il y a un C comme je vins, je convainc. Je vins, V-I-N-C, bien sûr, du verbe vaincre. Et après, au pluriel, on allait regarder quelles étaient les deux lettres possibles à la fin. Avec nous, avec vous et avec la troisième personne du pluriel. Alors avec nous, eh bien, c'est soit N-S, soit E-S pour nous sommes. Avec vous, c'est bien sûr le EZ et parfois le ES aussi pour vous faites, vous êtes. Et à la troisième personne du pluriel, alors là, il n'y a qu'une possibilité, c'est NT. Si on en regarde trois, il y aura ONT ou ENT, mais toujours NT. Et ça, ça permet de faire un tableau synthétique et de l'avoir très clairement, visuellement, affiché assez gros dans la classe, qu'avec je, on a toujours ces quatre lettres-là, on n'a jamais de T et jamais de D avec je. Pareil avec tu, jamais de T et jamais de D. Et avec la troisième personne du singulier, il n'y a jamais de S ou de X, ou de I, voilà. Vraiment déjà, ça permettait d'éliminer plein d'erreurs, dire bah non, ça c'est pas une possibilité. Le L aussi, hein, je travaille, il travaille avec un L ou je travaille avec un L. Non, ça n'existe pas. Hein. Je conseille avec un L, non, ce n'est pas possible. Il n'y a jamais le L en terminaison. Et vous avez remarqué, j'ai parlé de troisième personne du singulier et troisième personne du pluriel, puisque souvent on abrège avec il, elle, on pour le singulier, il ou elle avec les S au pluriel. Mais en fait, il est aussi important pour gagner en orthographe de comprendre que, en fait, ce n'est pas que ça. Et c'est plein d'autres choses. Et là aussi, sur le système de la liste, on avait la liste des personnes du troisième personne du singulier. Et là, dans cette liste, eh ben, il pouvait y avoir Marie, mon voisin, le chien du voisin, tout le monde. Ah oui, tiens, tout le monde, c'est singulier, c'est bizarre. Et donc, on pouvait voir que c'est pas évident quand on écrit une phrase que c'est la troisième personne du singulier. On est rarement en train d'écrire il, elle ou on. Il y a plein d'autres possibilités par lesquelles on va bien sûr remplacer par il, elle, on, mais quand même. Il y a aussi des pronoms, hein, chacun par exemple. Troisième personne du pluriel, même système. On faisait une liste avec plein de sujets possibles à la troisième personne du pluriel pour se rendre compte de tous les possibles. Enfin, pas tous évidemment, puisque c'est évidemment infinissable, mais se rendre compte voilà, de plein de combinaisons possibles hein, pour la troisième personne du pluriel. Alors vous allez me dire, pour nous et vous, c'est pareil. Nous, c'est pas forcément nous. Hein. Ça peut être mon frère et moi, et vous, ça peut être ton frère et toi. C'est vrai. On va aussi, voilà, mais c'est quand même moins d'erreurs dans les écrits des enfants, tout ça. Voilà des petites choses de base qui nous permettaient de travailler dans des bonnes conditions en orthographe, en grammaire, en conjugaison. Et aussi, pour que ça marche, eh bien c'était tous les jours. Hein. Il ne s'agissait pas d'avoir orthographe une heure au programme par-ci, par-là. Non, non, c'était tous les jours. Il y avait cette phrase au tableau. Pour tous les lundis, il y avait les mots à savoir écrire. Et tous les jours, les enfants écrivaient. Ils avaient un cahier d'écrivain. Ils écrivaient. Alors, soit c'est moi qui donnais une consigne, soit ils avaient besoin d'écrire parce qu'ils étaient en train de préparer un exposé, soit ils étaient juste en train peut-être de recopier un poème, ou soit ils étaient en train d'inventer. Et pour inventer, là, il y avait plein d'idées possibles aussi. Mais tous les jours, en tout cas, il y avait une activité d'écriture. Voilà. En fait, chaque jour, ils avaient des petites icônes, trois icônes. Tous les jours, il y avait à faire une lecture, une écriture et des mathématiques. Donc, tous les jours, l'entraînement, persévérer, voilà, les mots à savoir écrire, on va les écrire, les réécrire, et faire appartir au maximum de leurs écrits à eux. Après, pourquoi les enfants auraient envie de progresser en orthographe? Eh bien, la bonne raison, c'est quand ils vont communiquer ce qu'ils ont écrit. Hein. Si ce qu'ils écrivent reste là, dans leur cahier, ne sort jamais, il y a moins d'envie que ce soit juste. Par contre, si on est en train d'envoyer une carte à quelqu'un, si on est en train de préparer un exposé, si on est en train de préparer la page d'un journal, alors je sais que c'est plus la mode un journal, ça serait quelque chose sur un blog ou quelque chose comme ça, bon, peu importe, si on est en train de préparer un écrit qui va être diffusé, qui va avoir une réelle fonction, eh bien l'enfant a davantage envie que ce soit écrit juste. Donc avoir un maximum de situations où l'enfant est dans une réelle situation d'écriture. Ça motivera grandement son envie que ce soit écrit de manière juste. Après, ben c'est sûr hein, que si l'instit, si le parent, si en école à la maison, a vraiment déjà un goût pour l'orthographe et vit ça de manière joyeuse, il y a plus de chances que l'enfant il vive ça aussi de manière joyeuse. Après, tout ce qui est lettres qu'on ne va pas comprendre, eh ben, il est intéressant d'aller chercher l'histoire des mots, l'étymologie. Et là, on peut venir raconter des histoires qui vont expliquer les mots. Des vrais, ou alors on peut faire des petites blagues, des petits moyens mémotechniques qui vont nous permettre de nous rappeler s'il y a un P, deux P, un L, deux L, voilà, tout ça. Allez, j'ai beaucoup parlé.
Musique maintenant.
Nous allons écouter une chanson, The Sweetest Story Ever Told, de Cathy Taylor.
Answer me a question, love, I pray. My heart for thee is pining day by day. Oh, answer me, my dearest, answer true. Hold me close as you were wont to do. Whisper once again the story old, the dearest, sweetest story ever told. Whisper once again the story old, the dearest, sweetest story ever told. Tell me, do you love me? Tell me softly, sweetly as of old. Tell me that you love me, for that's the sweetest story ever told. Tell me, do you love me? Whisper softly, sweetly as of old. Tell me that you love me, for that's the sweetest story ever told.
Toujours sur
Radio Vassivier.
À l'écoute de
Élève-toi
avec les enfants.
Et c'est la 37e, le retour, ça y est, je suis revenue au studio. Alors, je vous parle d'orthographe aujourd'hui. On est bien d'accord que pour certaines erreurs, notamment les erreurs d'accord, justement, eh bien, il faut aussi avoir une certaine connaissance en grammaire. Alors, en grammaire, qu'est-ce que je pratiquais? Eh bien, chaque semaine, il y avait un atelier de grammaire, je faisais ça en groupe, où je donnais un texte qui était souvent le résumé d'une histoire que nous avions lue. Et je disais, dedans, il y a 12 noms, 14 verbes, 12 déterminants, 7 adjectifs qualificatifs, etc. Je donnais la liste de chaque nature de mots. Et il y avait un code couleur qui était toujours le même, voilà. Les noms, c'est en bleu, les verbes en rouge, les déterminants en orange, les adverbes en jaune, les adjectifs qualificatifs en vert, les pronoms en marron, les prépositions en violet et les conjonctions de coordination en noir. Voilà, c'était notre code. Et les enfants avaient dans leur porte-vue, et bien toujours un peu sur l'idée de la liste, pour chaque sorte, chaque nature de mot, une liste, alors exhaustive ou non, bien sûr. Les noms et les verbes, vous pensez bien, les adjectifs, que ce n'était pas exhaustif. Et en tout cas, plein d'exemples. Voilà. Et donc en groupe, et bien, ils étaient en groupe, et ils pouvaient faire le travail seul ou en groupe ou à deux, comme ils voulaient. Eh bien, ils devaient rechercher et souligner dans le texte tous ces mots. Et donc, discuter entre eux de « Ah, ça, je pense que c'est un nom parce que ça, je pense que c'est un adjectif qualificatif parce que voilà. » Et puis, on faisait ça toutes les semaines et au fur et à mesure, eh bien, ils progressaient dans la connaissance de ces natures des mots. Et puis aussi, je me rappelle que certains élèves s'en rappelaient quelques années après. Sur la porte, j'avais une feuille de chaque couleur avec, alors pas une feuille noire, c'était blanc du coup, avec les quelques mots, des exemples en fait, que voilà, visuellement ils étaient habitués à ça. Voilà. Donc là non plus, il ne s'agissait pas de faire des grandes leçons, mais pour chaque classe de mots, de regarder comment ça fonctionnait, quels mots il y avait, où on les trouvait dans la phrase, et puis de venir s'entraîner chaque semaine à retrouver la nature des mots. Pour les erreurs d'homophones maintenant, eh bien, même principe, venir faire une liste. Quand est-ce que on s'écrit ON? On fait une liste, on prend des phrases, on regarde. Ah, on dirait que là, on, bah, c'est un sujet. Quand est-ce que on s'écrit ONT? On fait plein de listes, on regarde comment ça fonctionne. Ah, bah là, c'est un verbe. C'est quel verbe? Le verbe avoir. Par quoi je pourrais remplacer? Et pareil, dans leur portefeuille donnée en début d'année, ils avaient une fiche avec ON, ON, des exemples, par quoi je peux remplacer, ON, ONT, des exemples, par quoi je peux remplacer. Alors là, j'ai eu un petit doute là-dessus, parce que certains peuvent avoir cette vision, et c'est possible, que en fait, venir les mettre contre à côte, c'est apporter de la confusion. Ou il n'y en avait peut-être pas. Si c'est à refaire, quand ça sera à refaire, j'espère redevenir un site un jour, eh bien je ne donnerai peut-être pas d'entrée de jeu, non, toutes les fiches outils sur les homophones, mais je les donnerai aux enfants qui rencontreront des difficultés avec l'homophone en question, et pas toutes, voilà. Et surtout, bien voir par quoi on peut remplacer le mot, avoir des petites choses très techniques pour s'en rappeler. Voilà, je vous ai dit en gros, dans les grandes lignes, ce que j'avais envie de vous transmettre sur l'enseignement de l'orthographe, la grammaire et la conjugaison. Maintenant, j'aimerais vous dire quelques mots au sujet, donc sur les 36 premières émissions, il m'est arrivé de parler alimentation, parler de la nourriture des enfants. Et je vous citais souvent les livres d'Anthony William, parce que j'ai connu vraiment des grandes satisfactions, réjouissances, libérations avec la mise en place de ce régime-là dans mon alimentation. Et puis là, j'avais envie de vous dire un petit mot pour dire, en fait, aujourd'hui, j'ai plus envie de dire à quoi que ce soit, à qui que ce soit, voilà, telle alimentation est super, ça m'a fait du bien, vas-y, fais-le, tu verras aussi. Puisque vraiment, niveau alimentation, on est vraiment tous différents. Et le plus précieux de tout, c'est vraiment de réussir à retrouver le silence à l'intérieur de soi qui permet de ressentir. Est-ce que quand je mange cela, ça me fait du bien? Est-ce que j'ai besoin de cela? Est-ce que j'ai besoin de telle quantité? À quel moment? De venir faire table rase pour venir redécouvrir chaque chose. Et ne pas suivre à la lettre. Alors des fois, ça m'a beaucoup aidé à un moment, mais je pense que je suis allée trop loin. Et aujourd'hui, il indique notamment, Anthony William, des proportions, on va dire, à l'américaine. Et ça, j'ai tout arrêté pour tout revoir et ressentir de quoi j'avais besoin. Par exemple, le demi-litre de jus de céleri, non, ça s'est transformé en un petit verre de jus de céleri. Et puis aussi, dans Anthony William, il n'y a pas du tout le rythme des saisons. Et nous, nous vivons quand même dans un endroit très rythmé par les saisons. Et la quantité de fruits, elle est vraiment moindre en ce moment. Et je peux vous dire que j'ai remarqué qu'en baissant les fruits, le miel et le sirop d'érable, mes enfants sont plus calmes. Voilà. Alors que j'étais une grande fervente de manger des fruits, c'est la vie, c'est la vie. Alors je le dis toujours, mais attention aux quantités, voilà. Donc je suggère toujours la lecture d'Anthony William parce que voilà, ça m'a quand même fait du bien. Mais j'ai plus envie de faire des phrases de toute vérité, de « il faut manger ça » parce que voilà, j'ai atteint une petite limite. C'est aussi pour ça que j'étais pas là tous ces temps-là. Et revoir à la baisse les quantités et aller vers quelque chose de plus raisonnable. Ça fait du bien aussi. Voilà ce que j'avais envie de vous dire là-dessus. C'est vrai que pour nos enfants, on se pose la question, qu'est-ce qu'il faut leur donner à manger? Et ça peut être un vrai casse-tête. Et voilà, le fruit, le miel, le sirop d'érable, alors à la fois, il y a plein de bonnes choses dedans et on peut se dire, voilà, certaines écoles vont dire oui, il en faut. D'autres écoles disent non, il en faut absolument pas du tout. Voilà, en ce moment, nous expérimentons de chercher le juste milieu là-dedans, peut-être une ou deux portions de fruits, un petit peu de miel dans la semaine, un petit peu de sirop d'érable dans la semaine, mais plus ça tous les jours en quantité. Parce qu'il semblerait quand même que ça vienne faire un petit excès, et même si c'est du bon sucre, eh ben ça reste du sucre. Voilà, je suis très contente d'avoir repris le chemin de ce studio pour pouvoir reparler sur les ondes de
Radio Vassivière
et vous permettre de bénéficier de cette 37e émission.
Élève-toi
avec les enfants.
Alors, si ça n'a pas changé, ça se passe toujours
chaque samedi à 15h sur Radio Vassivière.
Et c'est toujours une
une émission de Emily, ma maman.
Oh, il est trop mignon, mon petit choubidou qui fait tout ça. Voilà, eh bien, c'était la 37e. J'espère à tout bientôt pour la prochaine. Je vous souhaite une très agréable fin suite de journée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Les autres émissions sont toujours disponibles sur le site. Vous pouvez aller les écouter et surtout m'envoyer vos questions. Vous pouvez m'envoyer vos questions à emily.roudier23@gmail.com et j'y répondrai dans d'autres émissions avec grande joie et grand plaisir. Bon samedi à vous!